Donc bonsoir, nous nous retrouvons pour un nouveau mardi d'études publiques consacré cette fois à la situation au Moyen-Orient qui a connu des évolutions majeures ces derniers mois avec le rapprochement inattendu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine, alors que jusqu'ici le Royaume saoudien était un proche allié des Occidentaux et notamment des États-Unis. Et donc les conséquences de ce rapprochement pour le conflit au Yémen, qui était un peu une guerre par procuration, nos spécialistes nous en parleront, pour la Syrie, qui va réintégrer la Ligue arabe, le Qatar, et évidemment Israël, et l'Occident, et la Russie. Pour en parler, on a la chance d'avoir deux spécialistes. On va commencer par celui qui est le plus loin, Pierre Razou. Vous avez 56 ans, donc vous êtes à l'écran. Vous êtes docteur en histoire. Passionné d'histoire militaire, vous êtes intéressé aux conflits qui ont marqué votre enfance. Votre sujet de thèse portait sur la guerre du Kippour entre Israël et les pays arabes en 1973. Et vous êtes intéressé à l'Iran car vous étiez soucieux de comprendre ce qui était derrière l'enlèvement de l'équipe d'Antenne 2 en 1986 au Liban, dont on parlait tous les soirs au journal télévisé. Vous avez travaillé longtemps au ministère de la Défense, pour le Collège de Défense de l'OTAN et à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire à Paris. Depuis 3 ans, vous êtes directeur académique d'une fondation privée, la Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques, basée à Toulon, où vous êtes né et où vous êtes actuellement. Adolescent, vous avez beaucoup joué aux jeux de guerre sur plateau, les wargames, et vous en avez créé 2, Aube sanglante, Bloody Domes, sur la guerre Iran-Irak du début des années 80, et Fitna, d'après un mot arabe pouvant être traduit par schisme, division, sur les guerres au Moyen-Orient. Vous vantez leur valeur pédagogique, et vous utilisez surtout Fitna dans vos enseignements, parce que vous soulignez que ça force à réfléchir autrement en se mettant dans la peau de dirigeants de pays ou entités qu'on n'a pas choisis. Olivier Dallage, vous avez 65 ans, vous êtes journaliste spécialisé sur le monde arabe. Une spécialité que vous avez prise, qui vous a prise à Sciences Po, où vous avez suivi le cours de Rémi Levaux sur le Moyen-Orient, parce que, lui avez-vous expliqué, quand il vous a demandé d'où venait votre tropisme, vous en aviez marre d'entendre des informations que vous ne compreniez pas. Vous avez fini par les donner, les informations. Vous avez débuté votre carrière à Bahreïn, comme coopérant, et avez effectué toute votre carrière de journaliste, ou presque, à Radio France Internationale, dont vous allez être retraité au 1er juillet. Vous continuez à vous intéresser beaucoup au golfe persique, on parlera de ça, mais aussi désormais à l'Inde, où vous passez 6 mois d'hiver en alternance avec la France, comme les flamants roses. La raison, vous avez retrouvé votre amour de jeunesse, une jeune indienne que vous aviez connue à Bahreïn, la boucle est bouclée. Vous êtes jésuite, américain, actuellement étudiant en deuxième année de théologie du premier cycle au Centre Sèvres. Avant de venir en France, vous avez travaillé avec le service jésuite pour les réfugiés dans les camps au Soudan du Sud. Étienne de Blois, vous êtes vous en troisième année de cycle intégré après une carrière dans l'industrie pharmaceutique, où vous avez notamment arpenté le Moyen-Orient, puisque vous avez été en Iran, en Jordanie, en Israël, et dans les pays du Golfe. On va commencer par vous, Olivier Dallage, qui donc est spécialiste de l'Arabie Saoudite. Expliquez-nous pourquoi l'Arabie Saoudite s'est soudainement rapprochée de l'Iran.
Alors, je ne serais peut-être pas d'accord sur le soudainement, c'est l'annonce qui a été soudaine. Mais par définition, ce genre de choses, ça suppose beaucoup de discussions qui ont duré longtemps, plus ou moins discrètes. Et Je dirais que l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui a été révélé récemment, c'est moins un point de départ qu'un révélateur, même si en soi, cette révélation, ça change les règles du jeu. Le simple fait de le dire, ça remet les choses d'équerre et de façon différente. Et j'insiste sur le fait que ça a lieu dans un contexte général de dégel au Moyen-Orient entre pays qui s'affrontaient plus ou moins directement. À son tour, l'annonce de cet accord contribue à accélérer ou à accentuer le dégel en cours. Donc pour le moment, je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde sait, mais presque. La question est de savoir combien de temps ça va durer. Et donc, si je dis que c'est un révélateur, qu'est-ce que ça révèle? C'est un révélateur de quoi? Tout d'abord, le fait que l'Iran et l'Arabie saoudite ont ensemble choisi de donner à la Chine le rôle de faiseur de paix. Mais dans cette affaire-là, la Chine est davantage une sage-femme qu'autre chose. Car avant que la Chine s'en mêle, et je ne dis pas qu'elle n'a pas joué un rôle important, il y avait déjà depuis plusieurs années des pourparlers, plus ou moins discrets, mais qui n'étaient pas secrets sur la fin, qui se tenaient pour l'essentiel en Irak. Donc l'Irak a joué un rôle de médiateur important, l'Irak dont les autorités sont proches de l'Iran, mais qui est un pays arabe. Et puis Oman, qui a une tradition de médiation, a également joué son rôle dans cette affaire. Et Oman, pays arabe de la péninsule arabique, est également proche de l'Iran depuis très longtemps. C'est aussi un signal que, et beaucoup de gens l'ont relevé, que désormais l'Arabie saoudite ne regarde plus seulement à l'ouest, et notamment pas du côté des États-Unis, comme étant son protecteur exclusif. Il faut sortir de ce tête-à-tête entre l'Arabie et les États-Unis qui avait été institutionnalisé à travers la célèbre rencontre du 14 février 1945 sur un croiseur au large de Jeddah entre le roi Ibn Saoud et Franklin Roosevelt qui était de retour de Yalta, de Téhéran. Ça va plus loin parce que l'Arabie saoudite a des raisons objectives de regarder vers l'Asie, ne serait-ce que parce que l'Inde et la Chine notamment, et d'une manière générale tous les pays d'Asie du Sud-Est qui sont en développement rapide, consomment de plus en plus d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, dont l'Arabie est l'un des principaux exportateurs. Donc objectivement, il y a une raison à cela. Mais encore une fois, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à récemment, c'est les États-Unis qui apparaissaient comme leur principal pas unique, mais presque garant de sécurité. Et là, la Chine est présentée par ces deux pays comme une alternative possible aux États-Unis. En tout cas, c'est comme ça que ça a pu être perçu par un certain nombre de gens. C'est pas le cas. Il n'y a pas de revirement d'alliance, il n'y a pas de tournant à 180 degrés. S'il y a un tournant, on va dire qu'il est à 90 degrés, mais il n'est pas absolu, car il n'y a pas rupture avec les États-Unis, j'y reviendrai. Il y a en revanche un recalibrage de la relation, et on sait très bien que il y a aussi des considérations personnelles. Mohamed Ben Salman, le prince héritier qui est de fait le dirigeant principal d'Arabie Saoudite depuis quelques années, et Joe Biden et les démocrates en général ont des relations exécrables. Biden avait dit après l'assassinat de Jamal Khashoggi qu'il ferait de MBS, comme on l'appelle, ses initiales, Mohamed Ben Salman, un paria s'il venait au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir et il n'a pas réussi à en faire un paria, à tel point que, en juillet dernier, il s'est rendu en Arabie Saoudite pour demander à l'Arabie Saoudite de ne pas augmenter les prix du pétrole, de contenir les prix en pompant davantage. Il a été très mal reçu, alors même que juste avant et juste après, les Saoudiens ont reçu avec beaucoup de chaleur toute une série d'autres dirigeants, donc le message était extrêmement clair. C'était un affront. D'autant que MBS et Poutine n'ont jamais rompu, contrairement aussi à ce qu'auraient bien voulu les Américains et d'une manière générale les Occidentaux. Il y a un changement aussi important qui n'est pas créé par cette situation, mais qui est révélé par cette situation, c'est que Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier d'un royaume fondé sur l'alliance entre la famille régnante et des religieux extrêmement conservateurs qui sont descendants de Mohamed Ibn Abdel Wahhab, qui donc est à l'origine de ce qu'on appelle le wahhabisme, ça ne l'intéresse pas tellement. Il a mis au pas l'institution religieuse dans une large mesure. Il a ouvert socialement son pays, pas politiquement, pas du tout même, mais socialement oui, en permettant des concerts de musique, des cafés où hommes et femmes peuvent s'attabler ensemble sans être séparés par la police religieuse qui a dû rentrer dans ces casernes et en fait n'a plus grand rôle aujourd'hui. Lui, ça l'intéresse pas de diriger un pays dont l'étendard est uniquement l'islam. Il ne l'a pas renié. Il est toujours, ou il sera plus exactement quand il deviendra roi, le gardien des deux lieux saints que sont la Mecque et Médine. Mais lui, ce qui l'intéresse davantage, c'est d'être un pays qui compte sur la scène internationale. Et il veut être l'un de ces leaders de ce fameux sud global dont on parle beaucoup actuellement, comme peuvent l'être la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud ou le Brésil. Et on voit donc un recalibrage également de la définition que l'Arabie Saoudite se donne à elle-même, sous le régime qu'a imposé Mohammed bin Salman. Et c'est pas un hasard si l'Arabie Saoudite, qui est déjà membre du G20, a rejoint récemment en tant qu'observateur l'Organisation de coopération de Shanghai et candidate à l'élargissement des BRICS quand cela aura lieu, comme d'ailleurs l'Iran, l'Algérie et quelques autres. Alors, on a parlé de ce qui avait été révélé. Maintenant, qu'est-ce qui est sur le feu? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Parlons d'Israël. D'autres pays arabes ont noué des relations avec Israël, c'est le cas des Émirats Arabes Unis, d'Oman, de Bahreïn, pas du Koweït. Et on sait que Mohammed bin Salman veut également établir des relations avec Israël, il l'a dit lors de son voyage aux États-Unis en 2018 dans différentes interviews, mais il a également été cité peu de temps après en disant « si je noue des relations diplomatiques avec Israël, mon peuple va me tuer ». Donc il voit bien que la population saoudienne est assez rétive à cette perspective. D'autre part, enfin, il a quand même donné des signes en ouvrant l'espace aérien saoudien aux avions d'El Al et une coopération en matière de renseignement qui ne se cache pas. Il y a eu des échanges même militaires, médiatiques, mais pas jusqu'aux relations diplomatiques. Et de ce point de vue-là, du point de vue israélien, le rapprochement tout récent entre l'Arabie et l'Iran interroge. Il se demande ce qu'il y a encore en magasin et jusqu'où on peut aller. Mais alors qu'Israël est relativement pressé pour des raisons d'affichage, parce que c'est son objectif depuis toujours ou presque, de nouer des relations avec l'Arabie, Ben Salman, lui, il a le temps. S'il ne lui arrive pas d'accident en route, il est là pour quelques dizaines d'années. Netanyahou, chaque semaine, il se demande si la semaine suivante, il sera encore au pouvoir. Donc pour lui, il est important d'arriver à des résultats rapidement. C'est beaucoup moins le cas, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, de Mohammed Ben Salman. Au Yémen, l'Arabie cherche à se dégager ce conflit qu'elle a lancé en 2015. Et de ce point de vue-là, un réchauffement avec l'Iran permet également, d'une part, d'alléger la pression, même si moi je ne partage pas l'idée selon laquelle les Houthis sont des instruments serviles de l'Iran. C'est pas du tout ça, mais peu importe. C'est perçu comme ça en Arabie et ailleurs. Ça permet surtout d'afficher la raison pour laquelle on pourrait se dégager de ce conflit, et à mon avis, on y va tout droit. Le développement, Ben Salman veut avoir l'image d'un modernisateur qui développe son pays, l'ouverture au tourisme, les grandes cités qui sont en train d'être construites à des coûts exorbitants, mais pour le moment il a les moyens. Et donc il s'agit aussi de faire de l'Arabie une puissance qui compte et pas simplement un lieu d'où on exporte la religion. Et le nucléaire n'est pas absent de tout ça, nucléaire civil bien sûr, pour lequel l'Arabie a depuis longtemps fait valoir son intérêt, mais peut-être aussi le nucléaire militaire, notamment si l'Iran devait y parvenir. Et donc, j'en termine là-dessus, les ambitions réelles de l'Arabie Saoudite, elles sont ce que j'ai dit. Les changements, eh bien, il faut les interpréter à l'aune de ce qu'est le Moyen-Orient où la roue tourne sans arrêt. Aujourd'hui, c'est la grande réconciliation, la Syrie vient de rejoindre la Ligue arabe, la Turquie est ouverte avec Israël, avec l'Égypte, avec les Émirats Arabes Unis, avec l'Iran, avec tout le monde. Mais quand on a un petit peu une vue un peu plus longue, eh bien, on sait que ces cycles-là ne durent pas. Enfin, c'est un cycle, ça tourne. Et donc, il y a des chances que la roue tourne à nouveau. Pour le moment, l'Arabie cherche fondamentalement à avoir une autonomie stratégique, et je ferai un parallèle avec la politique indienne d'autonomie stratégique. On appartient à toute une série d'organisations et on choisit, on picore dans ce qui nous intéresse au moment où ça nous paraît le plus utile pour ne pas être lié par un contrat d'exclusivité.
Merci beaucoup. Pierre Azou, vu du côté iranien.
Avant de parler du côté iranien, je voudrais rajouter quelques petits points. Je suis vraiment globalement d'accord avec ce que disait Olivier Zalage. Je crois que ce qui vient de se passer, c'est d'abord et avant tout le fait que la Chine est désormais perçue comme la puissance d'équilibre stabilisatrice de la région. Et il faut sortir simplement de l'Arabie. Il n'y a pas que l'Arabie saoudite, il y a toutes les monarchies du Golfe et pas que les monarchies du Golfe. L'Irak, l'Égypte, bien sûr la Turquie, même Israël dans une moindre mesure. C'est-à-dire que les pays de la région se disent, aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus les boss, les patrons, ne sont plus crédibles en termes de puissance d'équilibre et de stabilisation. Donc allons voir ceux qui pourraient nous aider à nous stabiliser. Et ceux aujourd'hui, sur la planète qui ont un intérêt majeur à stabiliser la situation au Moyen-Orient, notamment pour des raisons énergétiques et commerciales, et donc stratégiques, c'est la Chine. La Chine importe environ 60% de ses hydrocarbures de la région du Moyen-Orient et donc doit sécuriser et stabiliser la région. Au passage, la normalisation entre l'Arabie saoudite et l'Iran lui permet d'envisager la construction à terme de pipes terrestres, hein, si vous voulez, qui relierait l'Arabie à travers le golfe Persique, qui est très peu profond, c'est très facile à faire, au réseau iranien, puis ensuite au réseau turkmène, qui ensuite va directement intègre le réseau chinois et notamment les grands pipes qui vont est-ouest de la Chine à la Russie et à l'Asie centrale. Ce qui veut dire que, je suis désolé, hein, je m'écarte un peu de votre question, mais c'est crucial en termes de géopolitique. C'est-à-dire que les Chinois, aujourd'hui, ont un problème majeur. C'est comment sécuriser sur le long terme l'approvisionnement énergétique en provenance du Moyen-Orient, qui passe aujourd'hui à 90% par la voie maritime et par l'océan Indien. Or, dans l'océan Indien, ils sont et ils resteront vulnérables aux manœuvres de la marine américaine et de toutes les marines qui seraient amenées à vouloir contester le leadership chinois. Donc, ils se disent, on aura toujours du pétrole et du gaz qui transitera par l'océan Indien, le détroit de Malacca, etc., la mer de Chine, la Chine. Mais il faut essayer de remonter un pourcentage important de ces hydrocarbures par la voie terrestre. Il y a plusieurs voies, ça peut passer par l'Afghanistan, ça peut passer par l'Asie centrale, par le Pakistan. Mais dans tous les cas, le continuum Arabie, Golfe Persique et Iran est extrêmement intéressant pour eux. Bon, ça c'est dit. De l'autre côté, il y a les États-Unis qui, eux, aujourd'hui, finalement, n'ont plus guère que le bâton militaire pour essayer d'être crédibles sur place. Et on voit bien que ça a atteint ses limites. Donc, comme le disait, je vais même un petit peu plus loin qu'Olivier Dallage, je pense que l'Arabie, et pas que l'Arabie saoudite, mais les Émirats arabes unis et la plupart des monarchies du Golfe, mettent aujourd'hui leurs œufs dans des paniers très différents. Le but, c'est de montrer que il n'y a plus comme auparavant l'option américaine, il y a plein d'options. Donc on a plein de paniers différents, on met plein d'œufs dans plein de paniers différents. Bien sûr, les États-Unis sont toujours dans le coup, entre guillemets, mais maintenant, comme on dit en anglais, les Saoudiens et les Émirats se posent des questions fondamentales sur la suite. Quelques points en termes de. Alors là, je reste sur Mohamed Ben Salman. Cet accord, finalement, les Chinois l'ont officialisé entre l'Iran et l'Arabie, et pas entre l'Iran et les autres monarchies du Golfe. Donc, pour quelqu'un comme Mohamed Ben Zayed, donc le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, ou pour le maréchal Sissi, ça n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça remet en quelque sorte MBS sur la selle, enfin où ça le remet en selle, et donc ça lui permet de croire que, comme le disait Olivier, avec les décennies qu'il a devant lui, si Dieu lui prête vie, il remonte la pente et il peut inverser le rapport de force au sein même de la péninsule arabique en sa faveur. On remarque aujourd'hui les Émirats arabes unis sont un petit peu, comment dire. Enfin, se posent des questions. Eux aussi, bien sûr, regardent à fond vers la Chine, hein, sans aucun scrupule, et vers l'Iran aussi. Mais aujourd'hui, le maréchal Sissi et l'Égypte tentent des manœuvres dans tous les sens, vers l'Afrique, vers la Turquie, bien sûr vers la Russie, vers l'Inde, pour essayer de montrer qu'il existe. Quelques conséquences de cet accord. Olivier Dallage en a un petit peu parlé avec le Yémen, je suis d'accord avec lui. Et je suis également d'accord pour dire que les Houthis ne sont pas la marionnette des Iraniens. Je crois même que les Iraniens sont prêts à sacrifier les Houthis un peu comme une vieille chaussette qu'on laisse tomber quand c'est son plus grand intérêt, comme les Iraniens, et c'était à l'époque du Shah, ont fait avec les Kurdes qui luttaient contre Saddam Hussein entre 1972 et 1975. Et que à la suite des accords d'Alger de 1975, le Shah qui s'était entendu avec les Irakiens et Saddam Hussein a dit « Ok, à partir de maintenant, je stoppe tout appui et tout soutien aux Kurdes irakiens ». Je pense que les Iraniens sont capables de faire exactement la même chose avec les Houthis, à la différence près que, en fait, au lieu de les sacrifier complètement, ils vont dire aux Saoudiens « Regardez, la carte Houthi, je la mets devant moi sur la table, je n'y touche plus ». Sous-entendu, mais bien entendu, si la situation dérape, je peux reprendre la carte et la jouer contre vous. Je crois que ça va avoir également un effet stabilisateur sur l'Irak, parce que finalement, si l'Iran et l'Arabie Saoudite sont d'accord pour stabiliser le jeu en Irak, tout ça avec les pétrodollars, enfin avec l'argent chinois et les investissements chinois, ben ça devrait atténuer une situation qui était pourtant sur le point de rééclater. Il y a 6 mois, on parlait de possibilités réelles de retour à la guerre civile en Irak. Aujourd'hui, je crois que c'est plus trop le cas. Bien sûr, un effet stabilisateur sur la Syrie. Olivier Dallage en a bien parlé. Tout le monde courtise Bachar al-Assad. Bachar al-Assad a gagné, c'est un fait. Donc, il faut l'intégrer, y compris pour les Occidentaux. Ça peut avoir aussi un effet positif sur le Liban. Pourquoi? Parce que si les Iraniens, les Iraniens peuvent dire aux Saoudiens, on est sympa avec vous au Yémen, on s'entend sur l'Irak, mais vous êtes sympa au Liban. C'est-à-dire que vous relancez la machine à cash, vous réinvestissez massivement de l'argent au Liban pour réveiller les vieilles pratiques. Alors bien sûr, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les jeunes réformistes qui espéraient changer de système clanique et familial au Liban. Mais pour justement les caciques de ces anciennes pratiques, c'est une bonne nouvelle. Et donc, ça peut permettre au Liban de se remettre au minimum à flot et en tout cas d'éviter de couler complètement. Dernière conséquence possible, on peut imaginer des bases militaires chinoises demain en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Je pense que c'est une véritable possibilité, peut-être même en Chine, pardon, peut-être même en Égypte. Donc ça veut dire que les équilibres stratégiques sont en train de se remodifier. Si on avait le temps, je pourrais vous parler de Djibouti, parce que alors là, les Chinois font le forcing à Djibouti. Et leur présence et leurs infrastructures, y compris en termes de base spatiale et de missiles, est assez impressionnante. Je m'arrête là. Si vous voulez, dans un deuxième temps, on reparlera un petit peu de l'Iran, mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors peut-être juste, puisque vous me posiez la question, quelles conséquences pour l'Iran? Eh bien, l'Iran me paraît désormais sanctuarisé, c'est-à-dire officiellement protégé par la Chine et par la Russie. Un Iran au seuil nucléaire que personne ne lui dénie, même pas les Américains, qui regardent ailleurs et commencent à parler d'autres sujets. Donc ça veut dire que l'accord nucléaire est mort et enterré, l'Iran est au seuil nucléaire. La question, c'est le franchira-t-il, ce seuil nucléaire? On pourra en parler, pas dans l'emploi bien entendu, mais dans la, disons, dans la capacité ou dans la démo, dans l'affirmation de la capacité. Et voilà.
Merci Pierre. Je vais peut-être passer la parole à Matthew, parce que les États-Unis ont été abondamment cités, effectivement, dans une posture qui est moins favorable qu'elle l'était jusqu'à présent. Si vous avez une réaction et une question à nos invités.
Oui, bon, merci beaucoup. Donc, je suis pas du tout expert des affaires au Moyen-Orient. J'ai fait une partie de mes études en Jordanie avant de devenir jésuite. Et plus récemment, j'ai passé 3 ans dans un camp de réfugiés au Soudan du Sud. Et donc, quand je regarde la région actuelle, je trouve intéressant la manière dont les alliances régionales commencent à changer. Et donc, je note deux exemples plus récemment. D'abord, avec les conflits internes au Soudan, on a vu un nombre croissant de morts et aussi beaucoup de gens déplacés internement, mais aussi à l'extérieur. Il y a une semaine ou deux semaines, je ne me souviens plus de la date exacte, l'Arabie Saoudite a évacué des citoyennes iraniennes. On l'avait à Jeddah, je pense.
A évacué des citoyens iraniens.
Voilà, c'est ça. Après, voilà, et donc maintenant, les États-Unis avec l'Arabie Saoudite sont en train d'aider avec les deux forces principales du Soudan d'arriver dans au moins de diminuer les conflits et les violences. Et ça, c'est à Jeddah, je pense. Deuxièmement, en Yémen, les conflits, évidemment, n'est pas fini. Mais avec la discussion actuelle, on a l'impression que cette alliance entre Arabie Saoudite et Iran peuvent contribuer à je ne sais pas, une paix durable, mais au moins quelque chose qui vise la paix dans l'avenir. Donc, peut-être ma question, c'est comment vous avez tous les deux expliqué aussi cette manière que cette alliance régionale commence à changer un peu. Les différentes alliances entre les pays au Moyen-Orient. Mais en gros, comment le rapprochement de l'Arabie Saoudite et l'Iran modifie-t-il les alliances régionales au Moyen-Orient? Je trouve que c'est intéressant. On parlait du pays avec du pays avec des musulmans, mais des musulmans des tribus, des sectes différentes, parfois en conflit entre eux. Aussi avec les Arabes, avec les Perses. Donc, est-ce qu'on peut de revenir à la question du pays ou de la mention du pays? Est-ce qu'on peut penser à un travail avec à partir de ce rapprochement pour la paix dans la région et au moins la fin de la diminution du conflit violent.
Il veut intervenir, Olivier, Pierre? Olivier.
Ce qui est fascinant dans ce qui se passe actuellement, c'est que la notion même d'alliance est à repenser entièrement. On n'est pas autant contre pacte de Varsovie comme pendant la guerre froide. On a des pays, au moment où la contestation de la domination occidentale est de plus en plus forte dans, je reprends l'expression, le sud global, qui appartiennent à toute une série d'organisations, certaines formelles, d'autres informelles. Là, par exemple, je voyais dans la presse indienne d'aujourd'hui que dimanche, il y a eu une réunion en Arabie Saoudite avec trois responsables de la sécurité nationale des États-Unis, d'Inde et des Émirats arabes unis. Et tous ces gens-là ont été reçus par Ben Salman. Ils appellent ça un nouveau quad. Il y a plein de rassemblements plurilatéraux, je ne dis pas multilatéraux, en ce sens qu'il y a plusieurs acteurs, mais ça n'est pas une organisation multilatérale au sens où peuvent l'être les Nations Unies, l'UNESCO, l'OIT, tout ça. Et si on reprend la théorie des ensembles, il y a beaucoup d'intersections, et l'important pour un pays, c'est d'être toujours dans les intersections. Et encore une fois, on va picorer ce qui nous intéresse. Et puisque je recours aux métaphores, je vais prendre celle d'un planétarium, c'est-à-dire que ça change dans le ciel, mais ça tourne toujours autour d'un axe. Et l'important pour ces différents pays, c'est de rester dans l'axe. Donc, là, pour le moment, on est dans une configuration qui est plus pacifique qu'elle ne l'a été précédemment. Mais je disais tout à l'heure que si le passé nous sert à quelque chose, c'est de penser que ça ne va pas rester tout le temps comme ça non plus. Et donc, pendant cet intervalle, chacun de ces pays va essayer de tirer le maximum, que ce soit sous l'angle économique, sur le plan des garanties de sécurité. Et la simple énonciation de cette rencontre de dimanche dernier montre que, bien entendu, l'Arabie Saoudite n'a en rien renoncé à une protection de sécurité assurée par les États-Unis. Mais ils ouvrent le jeu, c'est ce que tout à l'heure Pierre décrivait, avec des œufs dans toute une série de paniers. Simplement, certains ont plus d'œufs et plus de paniers que les autres, mais chacun essaie de le faire.
Pierre ?
Je suis vraiment d'accord, enfin, globalement, mais je voudrais préciser. En effet, je crois qu'il n'y a plus d'alliance formelle, même informelle, au Moyen-Orient. J'allais presque dire même pas entre Israël et les États-Unis. On est passé dans un système de relations extrêmement fluide. Et la fluidité, ça va remarquablement bien aux Chinois. Les Chinois, leur bâton, il n'est pas militaire. Leur bâton, c'est celui des pressions économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, si Xi Jinping a réussi à convaincre, je suis entièrement d'accord que ça s'est fait d'abord en Irak et à Oman, mais disons quand même à officialiser la normalisation entre l'Iran et l'Arabie, c'est parce qu'il a été capable de leur dire « Vous avez tous beaucoup d'argent à gagner, notamment avec nous. Donc soyez sages et soyez responsables. Pas de gros problèmes dans le golfe Persique et dans le golfe d'Oman. Soyez raisonnables, stabilisons cet axe-là, ce qui nous permet, nous, Chinois, de rapatrier nos hydrocarbures. Et en récompense, bien évidemment, on va investir massivement dans les deux, non seulement dans les deux pays, mais en fait dans tous les pays de la région. Le codicille, c'est si bien évidemment vous faites de grosses bêtises dans la région, et notamment dans le golfe Persique ou dans le golfe d'Oman, là, nous on fera pas comme les Américains, on va pas venir bombarder vos bases navales, on va juste vous casser le bras économiquement parlant. Et l'expérience semble montrer que l'argument et le bâton économique est aujourd'hui plus fort que le bâton militaire. C'est un premier point.
Mais casser le bras économiquement, ça voudrait dire quoi ? Arrêter d'acheter du pétrole ou...
Non, ça veut dire tout simplement arrêter d'investir. Les investissements, pourquoi ? Parce que tous ces pays-là, alors bien évidemment l'Iran, mais même l'Arabie dans une moindre mesure, ont besoin d'investissements massifs dans les domaines des hydrocarbures, notamment dans le gaz et dans le GNL, le gaz naturel liquéfié, et dans la modernisation de leurs infrastructures. Ce qui veut dire qu'en fait, chacun se tient. Et qu'en fait, les exportateurs d'hydrocarbures aujourd'hui sont dépendants des investisseurs, pardon, de ceux qui sont capables d'investir massivement. Pour nuancer peut-être un petit peu le côté saoudien aussi, tous les experts qui travaillent aujourd'hui dans le domaine de la sécurité militaire en Arabie, et on en parle avec un certain nombre d'entre eux, nous disent que l'état de préparation des forces saoudiennes n'a jamais été aussi mauvais. Comme si les Saoudiens avaient quelque part, je ne dis pas renoncé à se défendre, mais en tout cas se disaient qu'après tout, c'est plus véritablement un sujet. Bien évidemment, s'ils s'entendent avec les Iraniens, ils n'ont plus fondamentalement besoin d'une grosse protection militaire. Pour répondre à la question de notre ami, de l'intervenant américain jésuite, je crois que l'une des conséquences, c'est clairement à partir du moment où vous avez l'Iran et l'Arabie Saoudite qui s'entendent, ça ne peut qu'apaiser le soi-disant conflit sunnite-chiite. C'est-à-dire que le message, il va être très fort et très clair, c'est pendant un certain temps, c'est-à-dire en fait pendant à peu près, 12-13 ans, et en fait depuis 2001, c'est-à-dire depuis presque 20 ans, et les Iraniens et les Saoudiens reversent de l'huile bouillante sur le, entre guillemets, conflit sunnite-chiite. Alors évidemment, ça l'a non pas créé, mais ça l'a considérablement alimenté et ça a créé un véritable monstre. Aujourd'hui, des deux côtés, ils ont compris qu'il fallait apaiser et essayer de faire disparaître ce monstre. Et donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais pour relativiser par rapport aussi à ce que, et là je suis d'accord avec Olivier, pour dire que ça ne durera peut-être pas complètement et qu'il y a des facteurs externes qui peuvent changer, c'est que se passera-t-il si Trump est réélu dans 18 mois? Parce que apparemment, DeSantis, il a eu son moment de pas de gloire, mais disons, il y a cru un petit moment, mais quand on discute avec les spécialistes des États-Unis, ils vous disent que non, là, de DeSantis, c'est un petit peu carbonisé. Alors, il peut revenir quand même, hein, mais globalement, c'est quand même c'est ou Trump ou Biden. Et si c'était Trump, là, c'est sûr que Mohammed Ben Salman et l'Arabie Saoudite se diraient c'est une super nouvelle. Nous allons faire peut-être pas un 180, mais nous allons faire un 70 degrés en direction des États-Unis pour revenir comme avant. Voilà.
Pourquoi vous parlez du soi-disant conflit entre les chiites et les sunnites ?
Parce que c'est un conflit qui a été extrêmement instrumentalisé à partir de 2001. Bien sûr, il a toujours existé, on va dire de manière souterraine. Je parle sous contrôle d'Olivier Dallage, qui connaît très bien la région aussi, mais pour avoir commencé à circuler dans cette région-là à la fin des années 1980 et au tout début des années 1990, je laisse de côté, bien sûr, le Liban, qui est un cas particulier. Mais dans la plupart des autres pays, quand vous parliez aux gens de vos sunnites chiites, pour la plupart de vos interlocuteurs, vous disiez non, non, c'est pas un sujet. Y compris en Irak. Donc, évidemment, tout ça, ça a été très largement instrumentalisé ensuite par tous ceux qui avaient besoin de faire diversion de leurs petites erreurs tactiques locales, que ce soit les Saoudiens ou les Iraniens. Puis ensuite, quand vous créez, en fait, quand vous mettez de l'huile bouillante sur des allumettes et sur du gazoil enflammé, évidemment, le conflit s'alimente.
Oui. Bon, ce qui frappe l'occidental quand il commence à se frotter au Moyen-Orient, c'est cette succession d'identités comme un millefeuille. Simplement, selon le sujet et l'interlocuteur et les circonstances, bah, il y a une feuille qui monte au-dessus ou qui redescend en dessous. Et donc, quand il y a des tensions vives entre Iran et Arabie Saoudite, la question chiite-sunnite devient très importante. Le reste du temps, ce sont d'autres identités qui prennent le dessus. Et par exemple, si on prend la guerre du Yémen, là je remonte aux années 60, quand l'imam, après un millénaire de règne d'imamat au Yémen, a été renversé par les républicains, les républicains ont reçu le soutien de Nasser et les royalistes de l'Arabie Saoudite. Mais l'imam était un imam chiite, pas à l'iranienne, mais il était chiite comme les Houthis, quoi, en gros. Et donc, tout analysé à travers le prisme chiite-sunnite, ça nous fait passer complètement à côté de l'essentiel. Pendant la guerre Iran-Irak, les chiites irakiens se battaient contre l'Iran, etc. etc. Bon, voilà. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est souvent très surdéterminé. Et au fond, les conflits qu'il peut y avoir entre l'Arabie et l'Iran sont des conflits nationaux entre deux puissances riveraines du Golfe qui cherchent chacune à emporter le morceau.
Étienne ?
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, je voulais revenir une seconde sur cette double dualité sunnite-chiite et puis l'autre qui est arabe-perse, hein, qui semble avoir marqué aussi les relations entre les deux et la volonté marquée de l'Iran quand même d'avoir d'être une puissance régionale, peut-être la puissance régionale de la péninsule ou du Moyen-Orient. Mais puisqu'on a beaucoup abordé les questions local du Moyen-Orient, j'aurais voulu aborder la question plus internationale. On a beaucoup parlé de la Chine, mais l'impact de ces revirements d'alliance sur le monde et notamment le monde occidental. Moi, ce que j'ai trouvé frappant quand même ces derniers mois, c'est que dans leur politique pétrolière, les Saoudiens se sont fait les alliés objectifs de la Russie dans le conflit Russie-Ukraine. Si les Russes ont continué à gagner beaucoup d'argent, c'est aussi parce que le prix du pétrole a monté très significativement. Et l'Occident n'a eu de cesse que d'essayer de faire baisser à minima le prix du pétrole russe. Donc, n'y a-t-il pas quand même une alliance objective Arabie Saoudite-Russe dans ce conflit? Par ailleurs, les Iraniens fournissent des armes, au moins des drones, aux Russes. Et c'est aussi une volonté objective de soutenir un camp plutôt que l'autre. Enfin, quand on voit ce revirement d'alliance ou cette évolution des alliances, parce que vous avez dit que ce n'était pas exactement un revirement, au profit de la Chine et de la Russie, quand bien même ce ne sont pas des alliances solides comme auraient pu l'être les alliances autour de la guerre froide, ne voit-on quand même pas émerger plus solidement un contexte d'affrontement entre pays non démocratiques et le monde démocratique avec ces...
Qui veut réagir à ça, donc allié objectif de la Russie, Arabie Saoudite, allié objectif de la Russie et les...
Sur le pétrole, ça remonte à loin. Hein. Ça remonte en fait, je crois, à 98, quand Rafsanjani et Abdallah, qui était à l'époque prince héritier, s'étaient rencontrés et qu'ils ont coordonné leur politique pétrolière. Alors qu'avant, l'Arabie Saoudite était le producteur résiduel, swing producer, qui arrangeait toujours les intérêts des Occidentaux en pompant tant et plus pour faire baisser les prix. À partir de là, ils ont eu des besoins financiers et ils ont changé d'attitude. La Russie, elle, a des besoins aussi. Et donc, ces trois-là déterminent aujourd'hui le sort du niveau de production et par conséquent du cours des pétroles. Ils ont un intérêt qui dépasse toute autre considération sur ce plan uniquement. Par ailleurs, effectivement, la Russie et l'Iran depuis longtemps et l'Arabie Saoudite plus récemment contestent le monopole de direction que revendiquent les Américains et les Occidentaux en général. Maintenant, est-ce que ces dictatures ou régimes autoritaires contre démocratie, c'est ce que Joe Biden a essayé de faire avec le sommet des démocraties dans lequel il a invité Modi. Bon, on peut avoir des réserves sur le niveau de démocratie qu'il incarne.
Président.
Et inversement, Lula, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a été élu de façon démocratique, il a une pratique démocratique et pourtant il n'est pas dans le camp des Occidentaux. Donc je crois que là aussi c'est une clé de lecture qui est imparfaite.
Pierre ?
C'est sûr. La bonne nouvelle, finalement, pour les autocrates du Moyen-Orient, pas que les monarchies, hein, tous les autocrates, y compris de pays qui découvrent le populisme, c'est que les Chinois, a fortiori les Russes, eux, le mode de décision, ils s'en contrefichent éperdument. C'est-à-dire qu'ils ne donneront aucune leçon de valeur et de morale à ces autocrates-là. Donc le principe, c'est faisons du business ensemble et trouvons des ententes parce qu'on y a intérêt tous mutuellement. Mais rassurez-vous, on n'ira pas vous embêter là-dessus. Au passage, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, puisqu'on quand on parlait de sunnites, etc., mais la très bonne nouvelle pour les Chinois, c'est qu'à partir du moment où ils ont à bord on va dire l'État chiite le plus puissant et l'État sunnite le plus influent, à défaut d'être le plus puissant, on oublie complètement la question des Ouïghours. C'est-à-dire que Riyad et Téhéran vont faire passer le message partout, au passage probablement Ankara aussi, que désormais, il serait de mauvais ton de soulever la question ouïghour. Pourquoi ? Parce qu'on a tous besoin beaucoup de la Chine. Un autre point aussi, c'est, je suis entièrement d'accord, l'aspect fondamental, c'est l'OPEP+. Donc les Russes sont observateurs dans l'OPEP, ils sont plus qu'observateurs, ils ont quasiment, il leur manque juste le droit de vote officiel, mais ils ont pratiquement tout le reste. Et donc, l'entente sur les jeux pétroliers, elle est absolument cruciale. Donc, les Russes ont besoin de s'entendre avec les Saoudiens. Il ne faut pas oublier qu'au début du Covid, si le baril de pétrole est tombé à zéro sur la bourse de New York et à globalement 15 dollars dans les pays du Moyen-Orient, c'est parce que les Russes et les Saoudiens ne s'étaient pas entendus et étaient allés en choc frontal. Bien sûr, les États-Unis en ont profité. Donc sur le marché mondial des hydrocarbures, aujourd'hui, il y a trois gros ensembles de producteurs. Il y a l'Amérique du Nord, il y a la Russie et ses alliés, du moins ses partenaires proches, et l'Arabie et ses partenaires du Moyen-Orient. Donc en fait, pour pouvoir fixer les prix, entre guillemets, il faut au minimum deux de ces trois acteurs. Donc les Russes et les Saoudiens constatent que il peut être difficile de s'entendre avec les États-Unis, donc il faut au moins que les deux s'entendent. Un point aussi pour dire que, puisqu'on parlait de l'Iran, il ne faut pas oublier qu'en Iran, aujourd'hui, la priorité stratégique numéro un, c'est absolument pas de savoir si on va faire la bombe tout de suite ou pas, etc., si le régime va survivre. Je pense que le régime va survivre au moins jusqu'au décès du guide. Mais la question stratégique numéro un, c'est comment prendre l'argent de la Chine sans tomber sous la coupe et sous l'influence de la Chine. Donc c'est comment avoir le beurre et l'argent du beurre sans être obligé de vendre la crèmerie. Voilà ce que je voulais dire.
Le fait que l'Iran développe ses capacités, à nouveau ses capacités pétrolières, ça ne va pas brouiller un peu le jeu?
Je pense que l'Iran et l'Arabie Saoudite s'entendent, y compris avec la Russie, sur ce jeu-là.
On va peut-être passer aux questions de la salle, faire circuler un micro. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Monsieur, là, juste là.
Bonsoir. Je voulais avoir votre point de vue. On n'a pas parlé beaucoup d'Israël et de la Turquie. Alors, Israël, on en a parlé à un moment, mais quelles vont être l'évolution des relations entre Israël et l'Iran à la suite de cet accord? Première chose. Deuxième chose, la Turquie. Bon, il va y avoir des élections. On n'a pas aussi beaucoup parlé de la Turquie. Comment voyez-vous le positionnement de la Turquie par rapport à cette évolution entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Pierre ?
Si je peux, très rapidement. Excellente question. Benjamin Netanyahou et les dirigeants sécuritaires d'Israël. D'abord, leur souci numéro un aujourd'hui, c'est éviter la guerre civile entre juifs. La priorité numéro deux, c'est éviter une nouvelle intifada qui a commencé à s'enflammer, mais doucement, qui ne dit pas encore son nom, qui reste pour le moment sous contrôle, mais qui quand même les inquiète beaucoup. Parce que l'occurrence de affrontement interne à la population juive, intifada impliquant à la fois les Arabes israéliens et les Palestiniens, plus des opérations de déstabilisation venant et de la bande de Gaza et du Liban Sud et de la Cisjordanie, y compris par Daesh et les succédanés de Daesh qui existent et qui sont maintenant implantés sur place, les mettrait dans une situation d'extrême fragilité. Au passage, l'Iran, quand vous regardez bien, n'a absolument rien, comment dire, n'a pas profité de la situation actuelle où Israël est quand même en état de faiblesse à l'intérieur assez forte, en se disant c'est pas la peine de risquer de donner un prétexte à Israël pour intervenir. Au passage, Israël et l'Iran aujourd'hui ils ont souvent été en miroir, mais plus que jamais aujourd'hui, Israël et l'Iran sont des pays miroirs. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent par énormément d'aspects. Et des deux côtés, l'Iran et Israël aujourd'hui sont très forts à l'extérieur et très fragiles et très vulnérables à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a une entente entre eux pour éviter de donner à l'autre le prétexte pour déstabiliser encore plus le front intérieur. Donc Israël, Netanyahou s'est dit « Ok, ce qui vient de se passer, la normalisation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, non pas condamne les accords d'Abraham, mais en tout cas, il en a tiré la conclusion que le versant anti-iranien...
L'accord d'Abraham, c'est donc les accords entre Israël et certains pays arabes.
Oui, entre les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Israël et le Royaume du Maroc. Donc, Netanyahou s'est dit... Ok, la dimension endiguement de l'Iran est morte dans les accords d'Abraham. Par contre, les accords d'Abraham subsistent, bien évidemment, et ils sont intéressants, notamment dans leur dimension économique, touristique et d'investissement en termes de technologie, notamment pour avoir un pont en direction de la Chine. Donc, pour endiguer l'Iran, puisque nous, Israéliens, nous n'arriverons plus à endiguer l'Iran par le Sud, c'est la grande alliance du Sud, Jordanie, Arabie, Émirats Arabes Unis, etc., eh bien, il faut trouver un nouvel axe d'endiguement. Et ils l'ont trouvé. Ils sont en train de ressusciter l'axe d'endiguement nord qui passe par Chypre, la Turquie, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé en Israël c'est ce dernier mois, vous voyez un activisme absolument débridé d'Israël en direction de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan. Le message aux Iraniens, c'est « on ne peut plus vous endiguer par le sud, pas de problème, on va vous, de nouveau vous endiguer vers le nord ». Et comme par hasard, aujourd'hui, les deux problèmes, comment dire, mais véritablement cruciaux pour l'Iran, problèmes bilatéraux, c'est plus du tout les relations avec les États du Golfe, voire même directement avec Israël ou les États-Unis. Les deux soucis majeurs des Iraniens, c'est l'Azerbaïdjan et l'Afghanistan. Aujourd'hui, le torchon brûle littéralement entre Bakou et Téhéran, c'est-à-dire entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Les relations n'ont jamais été aussi exécrables. Et bien évidemment, les Turcs et les Israéliens en profitent. Voilà.
C'est quoi les conséquences de le fait que l'Azerbaïdjan et Israël soient à couteau tiré? Et l'Iran, pardon.
Ah non.
Excuse-moi. L'Azerbaïdjan et l'Iran soient à couteau tiré.
Ah ben, quelles sont les conséquences? C'est que demain ou après-demain, vous pouvez avoir une intervention militaire iranienne en Azerbaïdjan pour aider les Arméniens. Les grands perdants de cette histoire, ce sont bien évidemment les Arméniens. Les Arméniens ont compris qu'ils étaient isolés et abandonnés en rase campagne par tout le monde, en tout cas par les Russes, qui ont d'autres chats à fouetter en ce moment, et par les Occidentaux. Donc, ils sont la proie des appétits à la fois de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Et le problème, c'est que l'Iran a un besoin vital, comme la Russie, de maintenir ouvert l'axe terrestre à la fois routier et ferroviaire qui relie le nord de l'Iran, qui se faufile entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan, donc qui relie directement ensuite l'Arménie, puis l'Arménie, la Géorgie, puis la Russie. C'est par cet axe-là que transite un certain nombre, enfin beaucoup d'assistance économique et militaire. Et que surtout, c'est l'axe de coopération vitale nord-sud pour les Russes pour sortir sur les mers chaudes et surtout sur directement la relation avec l'Iran. Donc, en parallèle, les Turcs et les Azerbaïdjanais aimeraient bien ressusciter l'axe est-ouest qui passe par le Nakhitchevan et ensuite par les différents corridors, notamment de Zangzegan, tout au sud. En fait, c'est le long de l'Arax, le fleuve Arax. Et clairement, les Iraniens disent qu'il n'en est pas question. Donc, si l'Azerbaïdjan se relance dans une nouvelle guerre, entre guillemets, ou stratégie de grignotage de l'Arménie et du Nagorno-Karabakh, nous pouvons intervenir. Et je pense vraiment qu'ils se préparent à intervenir. En tout cas, ils s'y entraînent. Donc en fait, la guéguerre que tout le monde attendait entre, pour faire simple, l'Iran et l'Arabie Saoudite ou l'Iran et les Émirats Arabes Unis, voire l'Iran et tout le monde en Irak, elle pourrait se passer dans le Caucase demain.
Et d'ailleurs, c'est une grande constante et ça illustre à nouveau à quel point la parenté religieuse ne détermine pas la géopolitique, puisque la République islamique d'Iran a toujours été très proche des Arméniens chrétiens et plutôt en tension avec l'Azerbaïdjan, alors même que l'Azerbaïdjan est musulman et qu'une grande partie de la population iranienne parle azéri.
Exactement.
Et un deuxième aspect à la question, c'est la Turquie.
Et la Turquie, oui, pardon. Alors, le 14 mai, tous nos contacts turcs nous disent que cette fois-ci, ça va être serré.
Donc, 14 mai, c'est l'élection présidentielle.
Oui. En Turquie. C'est, en fait, c'est les élections globales. Et que Erdogan pourrait perdre les élections. Donc, la question, c'est si l'opposition l'emporte, donc qui est une coalition, comment dire, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Mais ce qu'on voit, c'est que tous les Turcs nous disent l'agenda, disons, très nationaliste turc persistera. Mon impression, c'est que c'est un peu comme Biden-Trump. Aux États-Unis, Joe Biden, en fait, fait bon an, mal an la même politique étrangère que Donald Trump. Simplement, il le fait avec des sourires, un ton poli, et il prend des gants. Et fondamentalement, la politique est assez similaire. Je pense que si l'opposition turque reprenait les manettes et arrivait au pouvoir, tout le discours pro-islamiste, etc., il y aurait trois tons en dessous, ça c'est sûr. D'autant que le candidat est un alévi, ce qui est assez intéressant. Mais fondamentalement, l'agenda hyper-nationaliste turc perdurera.
Olivier, là-dessus, sur la Turquie?
Oui, enfin, parmi les partis d'opposition qui sont dans l'alliance, il y a des partis très nationalistes historiquement. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison que ça change fondamentalement sur cet aspect-là. Ouais.
Oui, c'est sûr.
Autre question? Madame Enfon?
Merci pour cette vision géopolitique globale qui nous instruit énormément. Mais je redescends sur Terre et je voudrais poser des questions précises. D'abord, même si la Chine s'introduit avec force économique en Arabie Saoudite, pensez-vous qu'elle pourrait chasser les techniciens américains qui tiennent toute l'extraction pétrolière en Arabie Saoudite? Les Saoudiens n'ont pas accès au puits de pétrole en Arabie Saoudite. Ce sont des techniciens américains qui tiennent le tout. Comment le covoisinage, va-t-il s'opérer? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, pratique aussi sur le terrain. Je suis intéressée par la Syrie et le Liban. Quelles conséquences va-t-il y avoir sur la Syrie et le Liban dans ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Bachar el-Assad? Serait-ce momentané, le temps qu'il finisse son mandat, puisque parmi les accords dont on a entendu parler, il s'agit de ramener toute l'opposition syrienne en Syrie, tous les millions d'islamistes pratiquement qui se sont éparpillés dans le Proche-Orient. S'ils rentrent en Syrie, ils ne vont plus accepter un régime alaouite. Quelles conséquences y aurait-il? Quels sont les détails de l'accord, si vous êtes au courant? Je ne sais pas, moi je suis curieuse de savoir sur quoi ils se sont entendus pour savoir quelles conséquences il va y avoir aussi sur le Liban, parce qu'il y a dans les 2,5 millions de réfugiés syriens islamistes, ils commencent à s'armer aussi au Liban. Je vous remercie.
Donc les deux aspects de question.
Bon, sur la seconde question, je vais passer mon tour parce que j'en sais rien. Mais c'est l'occasion de dire qu'en effet, il y a probablement des codicilles secrets à l'accord qui a été rendu public. Et par définition, s'ils sont secrets, on ne connaît pas encore leur contenu. Sur les Chinois, les Américains et l'Arabie Saoudite, quand les Russes ou les Américains arrivent dans un pays africain, ils demandent au gouvernement de chasser les autres. Mais là, c'est pas du tout ce qui va se passer. Je serais très étonné que les Chinois suggèrent aux Saoudiens de se débarrasser des Américains ou même de leur recommander poliment et avec insistance de les remplacer progressivement. Ils vont juste s'installer à côté, développer leur propre savoir-faire. Et de la même façon qu'à Djibouti, puisqu'on parlait tout à l'heure de la base de Djibouti qui a longtemps été une base française puis qui s'est élargie, coexistent des marines qui sont peut-être amenées à se faire la guerre dans l'avenir autour de Taïwan, je ne sais pas. Il y a une base chinoise à côté de la base française, à côté de la base américaine, etc. etc. Donc les Chinois vont progressivement développer leur technologie, leur savoir-faire et envoyer leurs spécialistes là où les Saoudiens voudront bien les laisser arriver, mais certainement pas pour prendre la place des Américains. Si les Américains dans l'avenir décident de partir d'eux-mêmes, ce sera autre chose.
Je ne peux que appuyer à 100% ce que vient de dire Olivier Dallage.
Ça, c'est
sur la Syrie.
Le Liban.
J'en ai parlé un peu tout à l'heure. En Syrie, aujourd'hui, finalement, Le paradoxe, c'est que Bachar al-Assad ayant gagné, tous les parrains qui ont permis sa victoire, c'est-à-dire la Russie et les Iraniens, évidemment veulent un retour sur investissement et veulent préserver leur position sur place, voire même les améliorer. Et donc, ils ont intérêt à s'entendre. De manière paradoxale, Bachar al-Assad, lui, son intérêt, c'est de mettre dehors le maximum de Russes et d'Iraniens. Donc, est-ce qu'il y arrivera? Je ne sais pas. Mais l'intérêt clair de Bachar al-Assad, lui aussi, c'est de mettre non plus tous ses œufs dans le panier russe et dans le panier iranien, mais c'est de créer plein de paniers différents pour équilibrer les œufs et pour en mettre un petit peu partout, y compris avec la Turquie, y compris avec l'Arabie Saoudite, y compris avec les Occidentaux qui voudront bien renouer avec lui, y compris avec la Chine, y compris le problème aussi, c'est que maintenant, il faut reconstruire la Syrie. Il faut reconstruire une partie de l'Irak, il faut construire quand même une très grosse partie de la Syrie. Et pour ça, il faut beaucoup de capitaux et beaucoup de sociétés. Donc ce qui est en train de se dessiner, moi non plus, j'ai pas accès au codicille secret de l'accord, mais on peut assez aisément imaginer que les Chinois qui ont beaucoup de cash disent ou s'entendent avec les Saoudiens qui eux aussi ont beaucoup de cash pour dire on investit tous les deux en Syrie et puis ce sont des compagnies peut-être saoudiennes, peut-être turques, certainement chinoises, peut-être certainement libanaises aussi qui vont œuvrer à la reconstruction physique de la Syrie. Le problème étant, c'est les axes logistiques, les voies ferrées, les routes qui, pour le moment, ne sont pas en état de supporter tous les efforts de reconstruction. Donc, il va falloir le faire étape par étape. Et pour le Liban, c'est ce que je disais tout à l'heure pour répondre à la question de madame. Ce qui me semble assez probable, c'est que les Iraniens et les Saoudiens s'entendent pour que notamment les Saoudiens remettent beaucoup d'argent dans la grande lessiveuse libanaise pour refaire ruisseler, comme classiquement, vers les communautés, vers les grandes familles, beaucoup d'argent pour que par ruissellement, le système économique libanais puisse doucement repartir ou en tout cas repartir suffisamment pour éviter l'effondrement complet du système. Voilà comment je vois les choses.
Une autre question ? Monsieur, au fond.
Oui, bonsoir. Vous n'avez pas évoqué la situation en Syrie et en Irak avec l'État islamique. Est-ce qu'il est complètement et définitivement vaincu ? Est-ce que la sécurité de la région est assurée ?
La réponse est facile, c'est non.
Voilà. Aux deux questions.
L'État islamique n'est pas vaincu, il subsiste, il se développe de manière souterraine, il implante ses tentacules tel un cancer en métastase à droite à gauche, et il attend juste le bon moment pour revenir.
Et pour revenir où ?
Ah ben pour revenir partout où il pourra émerger, très certainement en Irak, probablement en Syrie, probablement en Jordanie. Et pourquoi pas en Arabie Saoudite si l'opportunité le permet. Je constate que les projets pharaoniques de construction de Neom, de la grande ville fabuleuse de science-fiction du prince héritier MBS, donc se font dans un endroit qui est quasiment inatteignable par Daesh. C'est-à-dire qu'en fait, autant Riyad est potentiellement, disons, fragile, autant Neom, c'est vraiment le donjon dans le donjon dans le donjon dans la forteresse, quoi. Donc avant d'aller chercher le prince héritier et la cour à Neom, va falloir se lever matin.
Pour des raisons physiques ?
Ben oui, parce que c'est dans l'extrême pointe, nord-ouest du royaume. Littéralement face, c'est même pas face au port d'Aqaba, c'est littéralement à quasiment en face de du sud de la péninsule du Sinaï et de Sharm el-Cheikh, côté égyptien. Et alors, ce sera un continuum, hein, c'est une bande. Mais ce sera sur un axe quand même extrêmement difficile d'accès et très bien protégé. Je ne parle même pas du Wadi Rum et de tous les endroits sur place. Et c'est vrai, véritablement une sorte de parc d'attractions, si vous voulez, complètement délocalisé en dehors, enfin pas en dehors, mais à la marge du pays.
MBS veut s'installer là ou...
Il faut demander à Olivier Dallage, je pense qu'il connaît mieux le site.
Non, je ne connais pas du tout, je ne suis jamais allé là-bas. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une infiltration et un attentat isolé. Ça peut se produire partout. Mais en effet, en tant que l'État islamique tel qu'il nous a habitués à être territorialisé, non, ça paraît très douteux.
D'autres questions ? Oui ?
Merci beaucoup. Bah, c'est une question un peu dans la continuité de ce qu'on vient d'entendre. C'est qu'est-ce qui explique le fait que l'État islamique demeure si vigoureux, disons ?
Bah, il a été défait militairement parce que contrairement à Al-Qaïda, il se comportait comme un État avec un territoire, une administration, etc. Ça ne veut pas dire que les gens qu'il composait se sont tous évanouis et ont disparu. Ils sont passés dans la clandestinité, ils se reconstituent là où ils peuvent. Et donc on n'a pas dissous l'État islamique comme ça par un coup de baguette magique, simplement parce que militairement, l'emprise territoriale qui était la leur a été vaincue.
Pierre ?
C'est ça, c'est tout à fait ça. Les structures survivent, se développent. Aujourd'hui, ils restent quand même très actifs, très actifs en Irak. Ils sont actifs en Syrie. Au passage, ceux qui luttent contre eux en Syrie, ce sont aujourd'hui, bien sûr, le régime syrien. Ce sont les Russes et les Iraniens qui continuent de taper dessus. Donc, la coalition internationale... sous égide américaine, a passé la main. Le paradoxe des...
Il n'y a pas les Kurdes. Les Kurdes, appuyés par les Américains, ne luttent pas contre l'État islamique.
Non, pas à ma connaissance, pas en ce moment.
Ben, un peu comme le Shah d'Iran avait laissé tomber les Kurdes en 75, là, les Américains ont laissé tomber les Kurdes à leur tour. Donc, ils sont surtout occupés à survivre.
C'est ça. Et pour survivre, il faut s'entendre avec Bachar. Et accessoirement, pour survivre, il faut s'entendre aussi avec les Turcs et avec les Irakiens et les Iraniens. Donc pour le moment, les Kurdes syriens ont clairement une entente avec le régime syrien et tiennent le terrain, donc ce qui est un avantage. Donc ça leur garantit une certaine forme d'autonomie parce qu'ils tiennent le terrain. Parce que l'armée syrienne n'a pas les moyens pour le moment de reprendre et de reconquérir tous les territoires. Mais Daesh reste réellement présent dans la zone.
Autre question ? Oui.
Ah oui, pardon, ce que je voulais dire, c'était le paradoxe. C'est le paradoxe des Iraniens. C'est-à-dire que les Iraniens, d'un côté, renvoyer les militaires américains d'Irak, c'est-à-dire faire en sorte qu'en Irak, il n'y ait plus aucun soldat américain. Donc, ils sont tentés par cette option-là, mais en même temps, en faisant cela, ils renforcent indirectement Daesh, parce que les États-Unis arrêtent de lutter contre Daesh en Irak et en Syrie. Ce qui ne fait pas, de ce côté-là, le jeu des Iraniens, sauf si c'est un prétexte pour justement dire à Bachar al-Assad et au gouvernement de Bagdad, ben justement, vous voyez, vous avez besoin de nous. Donc, il faut continuer à faire appel à nous.
Question.
Puis, qu'est-ce qui explique que les États-Unis ne soient plus vus comme le partenaire par défaut au Moyen-Orient ? Est-ce que c'est l'effet mécanique de la croissance chinoise avec la fin de l'hégémonie du dollar ? Ou est-ce que les États-Unis sont maîtres du tempo, est-ce qu'ils subissent complètement la nouvelle séquence qui est en train de se produire au Moyen-Orient ?
Il y a plein de raisons. Je dirais qu'il y a une tendance de fond qui remonte à un certain temps et qui, de toute façon... Mais il y a deux déclenchants immédiats. Le refus de Trump de exercer des représailles contre l'Iran après le bombardement prétendument par les Houthis, mais en réalité par l'Iran, d'installations pétrolières dans l'est de l'Arabie Saoudite. Et puis, plus récemment, les conditions dans lesquelles ils sont partis d'Afghanistan, ça a été un traumatisme pour tous les pays de la région. Ils se sont dit, si c'est ça la protection américaine, il est urgent de repenser la chose.
Pierre ?
Oui, et puis tout simplement, toutes les bêtises qu'ont fait les administrations américaines dans la région depuis 2002-2003, l'invasion de l'Irak, etc. Et puis, et surtout aussi la dénonciation de l'accord nucléaire du JCPOA. Parce qu'évidemment, tous ceux qui détestent
donc, les Iraniens... Donc l'accord nucléaire avec l'Iran entre les...
Pardon, de l'accord nucléaire entre la communauté internationale et l'Iran. Parce que d'un côté, tous ceux qui détestaient l'Iran, évidemment, ont applaudi des deux mains à la manœuvre de Trump. Mais d'un autre côté, ils se sont dit, oui, mais quelle est la valeur de la promesse et de la parole américaine ? Parce que si ça se passe dans ce sens-là aujourd'hui, ça peut se passer dans un sens contraire à nos intérêts demain ou après-demain.
Est-ce que le fait que les États-Unis soient autosuffisants en matière pétrolière fait que leur intérêt pour le Moyen-Orient est moins important ?
Oui, non, c'est sûr. Mais là où les États-Unis, je pense, ont toujours un intérêt réel à rester militairement présents dans la zone, c'est justement pour être capable, en cas de nécessité, de couper le robinet des hydrocarbures en direction de l'Asie et de la Chine. C'est-à-dire de dire aux Chinois, vous voulez prendre Taïwan ? Très bien, vous pouvez essayer. Vous voulez faire le blocus de Taïwan ? Allez-y. Mais nous, on vous ferme le robinet de pétrole. Et donc, OK, vous avez vos investissements, vous êtes très bien implanté, mais en attendant, il faut quand même que vos hydrocarbures transitent par des bateaux. D'où ce que je disais au tout début de notre présentation, c'est la logique chinoise qui essaye de tout faire pour territorialiser, entre guillemets, ou pour augmenter la part terrestre d'évacuation des hydrocarbures du Moyen-Orient en direction de la Chine. Donc de ce côté-là, pour l'instant, à échéance visible, les États-Unis peuvent dire non, en fait, tous vos tankers et vos méthaniers, eh bien, ils n'iront pas en Chine.
Très bien. Une autre question ? Madame ? Oui ? Attendez le micro, madame, s'il vous plaît.
Merci, Daesh. On sait qu'ils ils ont des sources de financement assez particulières, mais de qui reçoivent-ils des aides en fait ?
Donc de Daesh, de qui reçoit l'aide qui Daesh tire-t-il ses aides ? Qu'est-ce qui aide Daesh ? Est-ce qu'ils ont des financements ? Est-ce qu'ils ont besoin de financement ? Est-ce que on sait quelque chose là-dessus ?
J'ai pas de réponse directe, mais quand ils avaient une structure étatique, ils faisaient ce que font tous les États, c'est-à-dire qu'ils imposaient la population, les entreprises. On peut appeler ça du racket, comme vous voulez, mais je veux dire, c'était le même principe. Maintenant qu'ils sont plus territorialisés, leurs besoins sont moins importants. Donc, ils s'autofinancent, j'imagine, en contrôlant certains trafics, en prenant leur dîme, voire en contrôlant l'intégralité de la filière. Je ne sais pas si Pierre a d'autres informations.
Non, oui. Disons qu'à l'état, à l'époque où ils étaient territorialisés, on va dire entre 2014 et 2018, probablement qu'un certain nombre d'acteurs locaux et régionaux, à un moment donné ou à un autre, les ont un petit peu aidés. Aujourd'hui, en effet, ils ont besoin de beaucoup moins d'argent. Ils ont en fait besoin de ce qu'il faut pour survivre et se constituer une réserve pour le jour où ils reviendront en surface, avoir la capacité et la force de frappe suffisante en termes financiers pour se financer et acheter. Enfin, surtout, c'est que aujourd'hui, ce sont non plus des États ou des proto-États, mais plutôt des fondations et des investisseurs privés qui peuvent être tentés de les aider, ne serait-ce que pour déstabiliser ces pays-là, les pays pardon, sur lesquels ils sont actifs, pour embêter les Occidentaux, pour embêter l'Iran aussi. Je fais juste ça, voilà, pour embêter l'Iran. Et puis il y a aussi le rôle probablement de la finance islamique, ou d'une partie de la finance islamique, qui peut être tentée de les financer.
Et Al-Qaïda, ce
n'est pas des États, hein, c'est des investisseurs, on va dire, privés.
Al-Qaïda, ça existe encore ?
Ah bah oui, pareil qu'Al-Qaïda, ça existe.
Et l'articulation entre Al-Qaïda et Daesh ?
Alors en théorie, ils se détestent. En pratique, il est probable qu'ils puissent trouver à certains endroits, en tout cas, des terrains d'entente. Quand vous regardez où ceux qui se réclament entre guillemets d'Al-Qaïda aujourd'hui sont actifs, il y en a quand même dans beaucoup d'endroits. En Asie centrale, en Asie du Sud-Est, même dans la péninsule arabique, on parlait du Yémen tout à l'heure, en Afrique du Nord.
Est-ce que la paix / le développement de ces pays, si jamais, avec la situation qui se calme, ne va pas rendre moins attirant Al-Qaïda et Daesh ?
Probablement. Probablement, mais dans ce cas-là, ceux qui veulent remettre en cause cette domination pourraient être tentés de les aider un peu.
Bon. Autre question ? Étienne ?
Oui, tout à l'heure, on a parlé un peu de la situation interne en Iran, en disant que vous disiez, monsieur, que vous pensiez que le régime allait se maintenir au moins jusqu'à la mort du guide actuel. L'Iran est quand même, avec le blocus, dans un état de pauvreté, de difficulté à mettre en place ces évolutions industrielles importantes. Comment voyez-vous ça à moyen terme ?
Si je le savais, je serais riche. Plus sérieusement. Je pense que le régime, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit le régime, d'ailleurs, on ne devrait pas dire ça. On devrait dire le système de la République islamique. Depuis toujours, mais plus particulièrement depuis l'élection de Raïsi, c'est-à-dire depuis 2 ans, il y a des luttes de pouvoir absolument terribles au sommet de l'État à Téhéran, entre factions. Et les factions, c'est pas les gardiens de la révolution ou les durs contre les réformistes, c'est les grandes corporations. Pour faire simple, c'est le clergé. Et la partie du clergé qui, justement, considère que c'est elle qui doit rester aux manettes, parce que vous avez, un peu comme en Israël, où vous avez certains ultra-orthodoxes qui disent mais en fait, la religion n'a rien à voir avec l'État et devrait être séparée. Donc, en fait, les ultra-orthodoxes ou les religieux n'ont rien à faire dans le système politique israélien. Ben, de la même manière, à Téhéran, vous avez une partie du clergé, donc chiite, qui est à Rome, et qui dit non, mais en fait, le rôle du clergé, c'est d'être dans les mosquées. C'est pas d'être au gouvernement et au pouvoir. Donc il y a cette dualité.
On va couper.
Si nous sommes l'arbitre du jeu complet, donc il faut le rester. Donc il y a ces gens-là qui veulent se maintenir au pouvoir et qui sont challengés par tous ceux qui en ont marre et qui veulent leur part du pouvoir, les passes d'Aran, notamment pas la génération des 60 ans qui sont complètement infédés clergés. Mais plutôt les cadras et les quinquas qui ont fait pour les plus jeunes la guerre Iran-Irak, puis qui ont combattu en Irak et en Syrie, et qui se disent non, en fait, l'agenda doit être hyper nationaliste et beaucoup moins idéologique. Donc ces gens-là veulent leur part du gâteau. Vous avez tous les technocrates islamistes qui, style Ali Larijani, disons toute la mouvance proche du bazar et disons des milieux économiques, qui voudraient aussi leur part du gâteau. et donc et qui se disent on va mettre dehors le clergé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont transformer la République islamique et que c'est la fin du régime, pas du tout. C'est une ce serait une adaptation du régime, c'est-à-dire adaptation de la Constitution, rééquilibre des pouvoirs au détriment du clergé, au détriment du guide suprême et en faveur de l'exécutif, et avec un équilibre beaucoup plus subtil entre exécutif, c'est-à-dire le président, le gouvernement, et le majlis, c'est-à-dire le Parlement, qui est une chambre monocamérale aujourd'hui. Et pendant les manifestations donc de l'automne, ça a quand même bien bougé. Et il est possible qu'à un moment donné, les Pasdaran et l'armée se soient dit est-ce que c'est pas le moment de faire tomber les membres du clergé ? Les membres du clergé ont surréagi et ont probablement, enfin c'est mon interprétation, ont probablement trouvé un deal avec les Pasdaran et les technocrates sur le thème ok, la prochaine fois on se présentera pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux ans, aux dernières élections, en fait, ils ont empêché les membres Pasdaran et disons ceux qui avaient une chance réelle d'être élus. Et les technocrates qui avaient une chance réelle d'être élus, donc Mohamed Bach Khalibaf pour les Pasdaran et Ali Larijani pour les technocrates, de se présenter. Ils n'ont même pas eu le droit de se présenter. Donc évidemment, bah, c'est le candidat du clergé qui a été élu à la limite même sans bourrage d'urne, tout simplement parce qu'en face, il n'y avait que des personnages falots. Et là, la prochaine fois, clairement, je pense que les Pasdaran et les technocrates ont fait passer le message au clergé qu'il n'était plus question que le clergé se représente. Et donc que la lutte allait être beaucoup plus ouverte. Et clairement, ces gens-là, ou une partie en tout cas de ces gens-là, sont très probablement à faire une alliance avec la société civile et les classes moyennes sur le thème « Vous voulez davantage de liberté individuelle, on va vous en donner, notamment chez vous, à la maison. En revanche, pas de politique. » c'est-à-dire un petit peu comme à la chinoise. Et c'est pour ça que le système chinois est très attractif pour ces gens-là. Voilà comment je vois les choses.
D'autres questions ? Monsieur ?
Bonsoir. Ce soir, il a été fait référence quasiment exclusivement aux États-Unis en parlant d'Occident. Donc ma question est la suivante, comment voyez-vous le positionnement de l'Europe et notamment de la France en particulier dans cette zone géographique du monde ? Et est-ce que l'Europe et la France peuvent encore avoir une influence dans cette zone ? Et si oui, sous quelle forme ?
Olivier ?
L'Europe en général, et la France en particulier, prennent plus de place quand les États-Unis sont un petit peu en recul. Et donc... pour prendre un exemple parmi plein qu'on pourrait prendre, il y a quelques années, François Hollande avait été l'invité extraordinaire d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe. Donc il avait siégé aux côtés des chefs d'État du Golfe. C'est le moment où les États-Unis étaient mal vus des pays du Golfe à cause de l'accord sur le nucléaire iranien. Et puis, périodiquement encore, les États-Unis reviennent en force, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais ça peut revenir à tout moment. Et alors là... les Européens et les Français, entre autres, prennent moins d'importance. Ils attendent la fois d'après. Ils disparaissent pas complètement, ils continuent de faire des affaires. Mais tout ça pour dire que les pays du Golfe se servent des autres pour bien faire comprendre aux États-Unis qu'ils sont pas contents et qu'ils ont des alternatives. Jusqu'à un certain point, c'est entendu. Et puis, quand les États-Unis comprennent et font ce qui est attendu d'eux, ce qui finit généralement par arriver, eh bien, ceux qui avaient cru que leur heure était venue sont obligés de revenir à la niche.
Pierre.
Je l'aurais dit peut-être en d'autres termes, mais sur le fond, je suis assez d'accord. Juste peut-être un dernier point, peut-être pour dire que le problème, c'est que l'Europe, déjà, en fait, il n'y a pas de vision européenne, tout simplement, ou il y a trop de visions européennes, puisqu'il y a les visions de chaque pays qui compte et qui s'intéresse en Europe à cette région-là. Disons, pour faire simple, la vision allemande, la vision française, la vision italienne, je pense qu'il n'y a plus de vision espagnole. Donc, pour faire simple, les Italiens, les Français, les Allemands, les Nordiques qui reviennent un peu. Puis, il y avait bien sûr les Britanniques, mais les Britanniques étant maintenant sortis du jeu européen, c'est plus trop ça. Donc, la réponse à la question, c'est En fait, pour le moment, on ne voit pas de stratégie européenne se dessiner dans cette région-là. Par contre, des pays individuels, ceux que je viens de citer notamment, se disent qu'ils ont une carte à jouer et essayent de pousser leur pion. Mais comme le disait très justement Olivier Dallage, face les petits pions européens, face aux gros pions américains, chinois, voire même russes, ont peu de chance s'ils n'ont pas la constance derrière eux. Et pour le moment, la constance ne semble pas être trop là.
Quand même, soyons justes, la France a une constance dans l'inconstance ou une inconstance dans la constance. C'est-à-dire que la France cherche à être très présente dans la région du Golfe depuis Giscard d'Estaing, mais chaque président a ses affinités. Donc, par exemple, on sait que Sarkozy, c'était plutôt le Qatar, François Hollande, c'était plutôt l'Arabie Saoudite, Macron, c'est plutôt les Émirats Arabes Unis. Voilà, mais il y a quand même des efforts assez soutenus pour des raisons économiques, mais également pas uniquement militaires, ça va de soi. Donc on peut pas dire qu'il ne se passe rien. Voilà, si j'ai pu donner l'impression contraire, je m'en excuse.
En l'occurrence, on a très peu parlé du Qatar. Est-ce que c'est une bulle
Ok, je peux.
Allez-y, allez-y.
Que veut l'émir Al-Thani, le nouveau bien sûr. Jusqu'à présent, en fait, lui, son immense avantage, c'est qu'il est assis sur une richesse colossale qui lui permet d'acheter la paix sociale à la maison à échéance visible, voire même invisible. C'est-à-dire que quasiment tous les 2 ans, il peut doubler le salaire de ses militaires, policiers, fonctionnaires, en ayant suffisamment de cash pour continuer comme ça, en leur disant aux gens « je vous enrichis, mais pas de politique, ne venez pas m'embêter, et voilà, et ne venez surtout pas défier mon pouvoir ». Ce qui n'est pas le cas, ou ce qui n'est plus le cas, de ses voisins saoudiens et émiriens, ou du moins émiratis. Donc, donc en fait, l'émir Al-Thani peut, pour des raisons, on va dire, de géopolitique et pour embêter ses voisins, peut soutenir l'islam politique et les frères musulmans à fond, puisqu'il sait qu'en fait, il est globalement prémuni de toute action de rétorsion sur son territoire, puisque les frères musulmans, évidemment, n'iront pas l'embêter. Et comme il soutient l'islam politique, il est le chouchou des démocrates américains. C'est-à-dire que quand les républicains aux États-Unis sont au pouvoir, les républicains traditionnellement soutiennent l'Arabie Saoudite. Quand les démocrates arrivent au pouvoir aux États-Unis, typiquement les Clinton, puis Obama, les démocrates sont assez sensibles à l'argumentaire du Qatar et en général de l'islam politique. Et comme le Qatar aide et soutient les frères musulmans, et bien évidemment, ils sont en odeur de sainteté. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, Tamim Al-Thani, il a bien compris qu'il fallait que Joe Biden se représente et soit réélu. Parce que ça lui permet d'être le go-between favori des États-Unis dans la région pour négocier avec tous les vilains, tous les protagonistes compliqués de la région, à commencer par les talibans, mais pas que, y compris les Iraniens et tous les autres. Donc les Qatariens se disent, tant que les démocrates sont là, c'est une bonne nouvelle pour nous. Il faut surtout trouver le retour sur investissement des sommes colossales qui ont été investies dans la Coupe du Monde de football et préparer des jours meilleurs. Et donc, en attendant, rétablir des relations, on va dire, de travail, peut-être pas cordiales, mais en tout cas fonctionnelles, avec l'Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis, ils se détestent toujours autant, mais Bahreïn, c'est compliqué. Mais à partir du moment où Qatar reste, disons, en bon terme avec la Turquie, l'Iran, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, tout va pour lui.
Olivier ?
Là, je suis pas entièrement d'accord. Il y a du vrai naturellement, mais il y a des choses qui vont dans le sens inverse. Par exemple, quand les 4 pays de l'autoproclamé quartet, c'est-à-dire Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Bahreïn et Égypte, ont instauré un blocus en juin 2017 contre le Qatar en retirant leurs ambassadeurs, On préparait même une intervention militaire qui, l'a-t-on appris quand l'émir du Koweït a été reçu par Trump, a été évité d'extrême justesse. Dans un premier temps, Trump, c'est vrai, soutenait, il avait participé à un sommet à Riyad, il avait soutenu la position saoudienne, mais très largement en raison des efforts de Rex Tillerson, qui venait de l'industrie pétrolière et qui était secrétaire d'État à l'époque, c'est Trump qui a sauvé le Qatar, en fait. Et il y a beaucoup d'intérêts, notamment une base américaine qui est la plus importante du Moyen-Orient, qui se trouve au Qatar. Donc on parlait d'eux et de paniers, ça joue aussi dans ce domaine-là.
Alors moi je dirais pas que c'est Trump qui a sauvé le Qatar, c'est le Pentagone. C'est-à-dire que c'est le Pentagone, de ce que je sais, hein. C'est le Pentagone qui a tordu le bras de Trump pour lui dire « Monsieur le Président, peut-être pas ». De même que c'est le Pentagone qui a retenu la main de Trump dans les représailles qui étaient prévues aux frappes iraniennes dont on a parlé tout à l'heure. Simplement, Trump n'a pas fait de calcul. Là où le Pentagone, lui, a fait des calculs, disons, tactiques et stratégiques dans la région et s'est dit que pour le coup, il valait peut-être mieux pas, disons, riposter et rentrer dans une logique d'affrontement avec l'Iran. Alors évidemment, Trump a dit « Non, non, mais c'est moi qui ai retenu la main des généraux. » Je pense que la réalité, c'est exactement l'inverse.
Bon, eh ben, il y a de quoi méditer. Merci infiniment à nos deux protagonistes. Et on peut d'ores et déjà annoncer le prochain mardi d'été public.
Voilà, le prochain mardi d'études publiques aura lieu donc le 6 juin, ce sera le dernier de notre année universitaire, et son thème sera très différent, ce sera intelligence artificielle, information, vérité, un risque pour la démocratie.
Merci beaucoup.
Merci à vous et merci de votre invitation.